Cube Radio.
Hey Germain, je suis assez content, là, mon café préféré.
Qu'est-ce qui se passe? Comment ça que tu sonnes pas comme d'habitude, là?
Ah, ben, comme tu sais, moi, je suis un des privilégiés du milieu. J'ai encore accès à des voitures de presse. Puis, je suis dans une nouvelle voiture. Puis, c'est une Chevrolet Bolt, une voiture assez techno. Puis, j'ai l'impression qu'elle est peut-être moins bien insonorisée en dedans que d'autres. Donc, c'est peut-être pour ça que je sonne plus cacane, là.
Ben, de mon côté, je me retrouve encore dans un véhicule très bien insonorisé dans lequel le velours et le tissu côtelé est très, très, très présent. Je te parle en direct du passé, c'est-à-dire dans ma Oldsmobile Cutlass Cruiser SL pour Sports Luxury 1994. Et on pourrait être 8 à faire un podcast dans cette voiture.
C'est ça qui est drôle, hein, parce que moi, je suis dans une voiture qui est en avant sur son temps d'une certaine manière, là, la Chevrolet Bolt.
Et je te confirme que la Cutlass familiale en 94 n'était pas en avance sur son temps.
Non, pas vraiment. Mais justement, ça serait pas un bon sujet aujourd'hui, ça, les voitures en avant sur leur temps?
J'adore ton sujet à amener, et juste pour ça, on va en parler.
Parfait.
On part?
On part.
Marc-André, quand je pense de voiture en avance sur son temps, la première qui me vient en tête, c'est évidemment la Pontiac Sunfire. T'es d'accord avec moi?
Va falloir que tu m'expliques pourquoi, parce que vite de même, je dirais plus qu'elle est comme toi, c'est-à-dire en retard sur son temps.
Ben évidemment, c'était une petite blague pour commencer l'épisode, parce que la voiture qui était en avance sur son temps au moment de sa fabrication, à mes yeux, à moi, c'est la Tucker 48, la Tucker Torpedo. C'est une voiture exceptionnelle qui a été produite à 50 unités seulement en 1948. Donc, il faut se remettre à l'époque. On est au lendemain de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Les voitures ont encore l'air de celles d'avant-guerre parce qu'il n'y a pas eu de développement automobile. Et là, il y a un Américain prodige, Preston Tucker, qui arrive avec une voiture complètement révolutionnaire, là. Et ses features, en bon français, ses atouts, ben, c'est des atouts qu'on retrouve dans des véhicules aujourd'hui. Mais en 1948, c'était...
Comme quoi, par exemple?
Ben, c'était du jamais vu. Ben, premièrement, un moteur arrière dans une berline américaine, c'était loin d'être courant. ensuite de ça, il y avait un troisième phare. Donc, on avait un phare de chaque côté, ce qui était tout à fait normal, mais il y avait un œil central et celui-ci était directionnel avec le volant. Donc, autrement dit, tu tournes à gauche, et bien le phare central, lui aussi, va s'orienter vers la gauche. Aujourd'hui, on retrouve ça dans certains véhicules. Quand on l'a, on l'apprécie, on trouve ça génial. Mais là, mets-toi dans la peau d'un monsieur ben ordinaire en 1948 qui a pas la télévision, qui a pas Internet, qui a rien.
J'espère qu'il n'y a pas Internet, Germain.
Non, mais on se remet à l'époque, là. Et il y a probablement 10 enfants à la maison, et là, on lui parle d'une voiture avec un phare directionnel. Franchement, c'est assez exceptionnel.
Mais je pense que c'est pour ça qu'ils en ont vendu 50, justement, là.
Ben, c'est aussi parce que les industriels de l'époque, là, les géants américains, donc GM, Ford et Chrysler, eux ne l'ont pas accueilli à bras ouverts dans le domaine de l'automobile. Ils l'ont carrément amené sur le bord du ravin. Ce qui est assez ironique parce que aujourd'hui, ben, la Tucker, c'est une voiture de musée. Elle se transige toujours en millions de dollars. Et il y en a une qui est stationnée et exposée au musée Ford. Alors, pour moi, tout ça est très, très, très ironique. Mais si on revient aux éléments de sécurité qui la distinguaient, on peut penser au pare-brise éjectable. Donc, en cas d'impact, les occupants étaient pas coupés par la vitre parce que le pare-brise s'éjectait par lui-même et tableau de bord embourré. Bref, il y avait beaucoup, beaucoup d'éléments avant-gardistes dans cette voiture-là. Et en fait, elle était peut-être trop avant-gardiste pour l'époque.
Mais il mourait complètement broyé par l'impact de la collision parce que les voitures se déformaient mal. Donc
Voilà.
Une voiture que j'aime bien, là, qui est en avance sur son temps aussi, et qui est plus vieille que la tienne, parce qu'elle a été faite dans les années 30, là, plus exactement en 1934, c'est la Chrysler Aeroflot. Je sais pas si tu sais, mais aujourd'hui, une des grosses composantes d'une voiture, c'est quoi? C'est l'aérodynamisme, hein?
On est d'accord.
Parce que plus une voiture est aérodynamique, plus l'air passe au-dessus d'elle, plus justement elle va glisser dans l'air, plus
Moins
elle
il va y
va.
avoir de restrictions, plus elle va être
Exactement.
économe, là.
Elle
Donc,
va
moins ça va
économiser.
prendre de carburant pour la faire avancer.
Oui, parce que tu vois, il donnait l'exemple de la Bugatti Veyron quand elle a dépassé les 400 km/h. Il disait qu'à cette vitesse-là, l'air avait pratiquement la densité du caramel. Fait que tu sais, il faut que tu aies une forme qui coupe, là. Quand tu regardes un avion à réaction, tu vois qu'il est fait de manière à couper l'air. Ben, la Chrysler Aeroflot des années 30, justement, c'était une des premières voitures qui avait été, disons, dessinée dans le but de favoriser l'aérodynamisme. Sauf qu'à l'époque, il faut se remettre un peu dans le bain, comme on dit. Disons que l'économie d'essence des voitures, c'était loin, loin, loin d'être une priorité. Donc, avoir une voiture aérodynamique qui sortait un peu de l'ordinaire par son design, là, c'était pas recherché du tout. Et donc, c'est un projet qui aura duré 3 ans parce qu'en 1937, Chrysler a mis fin au projet. On voit qu'à même à l'époque, FCA, c'était divisionnaire, hein, comme aujourd'hui. mais bon.
Pareil.
Mais plus sérieusement, c'est quand même une voiture qui est pionnière parce que qui aurait pu prédire que pratiquement 100 ans plus tard, mais en fait 80 ans plus tard, là, on allait encore prioriser l'aérodynamisme. Regarde par exemple le Chevrolet Bolt, ben, son design un peu particulier est justement dû au fait qu'on a voulu faire une voiture aérodynamique.
Tu vas peut-être être surpris quand je vais te nommer le prochain véhicule que j'ai trouvé en avance sur son temps, mais au fil de mes explications, tu vas peut-être moins me juger. La Tucker, elle, était une voiture américaine qui se démarquait des autres géants américains, mais on peut penser aussi à la marque AMC, donc American Motor, qui était finalement le quatrième constructeur américain qui aurait été racheté par Chrysler par la suite. Mais tout ça pour dire que en 1980, cette quatrième marque américaine est débarquée avec la Eagle. Et cette voiture-là, bon, c'est une voiture américaine qui pouvait prendre la forme d'une voiture à deux portes, d'une berline ou même d'une familiale. Il y a eu aussi des conversions cabriolet, mais ça, c'est une autre histoire. Et cette voiture-là, compacte, pouvait être équipée d'un système à quatre roues motrices. Donc, on se replace dans les années 80. Alors que GM, Chrysler et Ford nous proposaient de véritables poubelles, eh bien là, on nous arrive avec une poubelle, mais cette fois, quatre roues motrices. Franchement, je trouve ça intéressant. C'est le genre de système qui était réservé, par exemple, aux pick-up ou aux gros utilitaires comme les Blazers, les Broncos et compagnie. Mais là, de retrouver ça sur une automobile compact, c'est avant-gardiste parce que aujourd'hui c'est un élément qu'on retrouve, j'aurais tendance à dire, de plus en plus chez les voitures comme telles. Subaru d'ailleurs a basé sa réputation là-dessus et une des compacts qui pourrait être une rivale actuelle de la Eagle, ce serait la Impreza. Et si tu veux rire, il y a eu une version SX4 de la Eagle et Suzuki dans les années 2000, est arrivé avec un modèle qui était baptisé SX4 et c'était une toute petite voiture à quatre roues motrices. Tout est dans tout, Marc-André.
Je sais pas si les Japonais sont inspirés de celle-là, là, mais tu vas être d'accord avec moi quand je trouve ça dommage que Chrysler, à l'époque, c'était le spécialiste quand c'était le temps d'acheter des compagnies puis de les fermer après. On penserait à des autos, on pense à AMC, tu sais, c'est...
Oui, AMC avait été acheté finalement pour Jeep, ce qui aujourd'hui, ben, on n'a pas le choix de leur donner raison. Cela dit, est-ce qu'on aurait pu continuer de faire vivre AMC? J'en suis convaincu parce que cette marque-là se distinguait des trois autres géants et avait sa propre personnalité.
Oui, il faisait même des muscle cars assez cool. Non, sérieusement, c'était un peu les... Tu sais, quand t'es le quatrième joueur, t'as pas le choix d'innover, puis c'est ça qui était bien, cette compagnie-là innovait. Puis quand elle a été achetée, je trouve que Chrysler, au lieu de... Comme ils ont toujours fait, là, au lieu de focusser sur l'innovation de leurs produits, ils ont rien fait. Alors, écoute, si on parle d'une compagnie qui a déjà eu un partenariat avec Mercedes-Benz, là, qui a trouvé le moyen de prendre des plateformes qui étaient plutôt bonnes puis de les scraper. Mais bon, rien n'est impossible pour FCA.
Et de continuer de les utiliser 20 ans plus tard.
Une autre voiture qui m'a marqué, mais que je trouve qui est en avance sur son temps, et pour une drôle de raison, c'était la Buick Riviera. Est-ce que tu sais pourquoi?
J'aurais tendance à tricher et à te dire en raison de son tableau de bord digital.
Écoute, non seulement il y a ça, parce qu'effectivement, la Riviera qui a été faite de 1900 86 à 1993. Elle avait un tableau de bord, mais en guillemets, digital, là. C'était pas un écran en cristaux liquides haute résolution.
C'est aussi digital que votre micro-ondes âgé de 20 ans, là.
N'empêche que Buick a eu le flair en faisant ça, parce qu'aujourd'hui, là, la plupart des compagnies font ça. La preuve, en ce moment, je suis dans une Chevrolet Bolt. Devant moi, j'ai un écran littéralement en cristaux liquides, là, qui est... Mes cadrans sont là-dessus. Toutes les compagnies sont vers ça. Audi, Porsche, même dans le normal, là, entre guillemets.
Même chez Volkswagen, par exemple, les nouveaux modèles n'ont plus d'aiguilles physiques, là. C'est carrément digital. Donc, on a un peu démarré une mode avec la Riviera. On a retrouvé cette technologie aussi dans les Cadillac, entre autres, là, de cette époque.
Puis l'avantage d'un tableau de bord digital, ça peut être plus précis. On s'appelle que la Lexus LFA, le moteur, était capable de changer tellement rapidement de révolution que un aiguille physique n'aurait pas pu suivre. Il a fallu que Lexus y aille avec un écran justement pour ça.
Et ça, c'est rapide.
Exactement. C'est un méchant V10 qu'il y a là-dedans. Mais bon, la LFA, c'est une voiture exception. Puis sinon, ça te permet d'avoir un paquet de gadgets ajustables. Tu sais, on se rappelle les Cadillac Escalade. On peut choisir, quand ça venait de sortir, la génération actuelle, on pouvait choisir quel genre de cadran on voulait, sport, touring, peu importe. Donc, tu sais, je trouve pas que
c'est plus modulable.
Oui, exactement. Mais bon, il n'y avait pas seulement un tableau de bord, digital, entre guillemets. Là. Il y avait également un écran.
Je t'arrête tout de suite, Marc-André, parce que je viens de recevoir un appel de l'OQLF qui vient de me dire que digital, c'est un anglicisme et qu'il faut dire numérique. Donc, on s'excuse aux oreilles qui ont saigné dans les dernières secondes. On va dire numérique à l'avenir.
Nonobstant donc le fait qu'elle avait un tableau de bord numérique ou digital pour les gens comme moi là, qui ont grandi dans West Island. La voiture avait également un tableau de bord qui avait un écran tactile, dis-je bien. J'espère que c'est un mot français, ça, tactile. C'est-à-dire un écran sur lequel on pouvait appuyer pour faire certaines commandes. Je savais que c'est avant-gardiste parce que dans toutes les voitures, ou presque, là, sauf la Nissan Micra, je crois, on a maintenant l'iPad en guise de système d'information.
Elle n'existe plus, la Micra, alors voilà, c'est réglé.
Oups, au revoir sur Micra, mais je suis sûr que dans une belle Mirage G4 de base, il n'y en a pas non plus.
Écoute, le dernier modèle, moi, que je trouve avant-gardiste, eh bien, il est lié à la voiture dans laquelle tu te trouves. Est-ce que tu es capable de deviner de quoi il s'agit?
Lié à la Chevrolet Bolt, serais-je la Chevrolet Volt?
Non, pas tout à fait. Un petit peu plus vieux.
La Plymouth 69.
Non plus. C'est la GM EV1. Donc,
La EV1.
Donc, ça, c'était un projet de GM à la fin des années 90. On a carrément commercialisé une première voiture qui était 100% électrique. Donc, on se replace à l'époque. La première Insight n'était pas arrivée. La première Prius n'était pas non plus arrivée. Et boum! Chez GM, on dit, tiens, voilà une auto à l'allure très futuriste qui est 100% électrique. Je pense que c'était trop tôt et c'est pour ça d'ailleurs que ça n'a pas duré très très longtemps. Il y a eu un engouement réel pour cette voiture-là, il faut le mentionner. Mais comme les voitures étaient seulement disponibles en location, ben une fois le bail terminé, ben il fallait rendre les clés de sa voiture. Donc, il n'était pas possible de la garder. La première version, quand même, pouvait parcourir presque 100 km. C'est sûr qu'avec nos standards de 2020, c'est pas énorme. Mais s'il faut se remettre à l'époque, alors qu'il n'y avait tout simplement pas de voiture électrique, ben c'est pas si mal du tout.
Là, 100 km, Germain, les propriétaires de Mitsubishi Outlander peuvent achever en rêve.
Ben exactement. Mais à la différence, c'est que dans la EV1, c'est ça, il n'y avait pas de moteur archaïque à essence pour prendre le relais par la suite. Mais toujours est-il. Et d'ailleurs, il y a eu un excellent film qui s'intitule en anglais Who Killed the Electric Car? Et finalement, c'est un documentaire sur cette voiture avant-gardiste de GM. Et il va falloir attendre jusqu'en 2011 pour l'arrivée de la Volt, qui, elle, est une, on va le dire de manière simple, là, une hybride rechargeable, même si techniquement, c'est pas ça. Ça reste ça quand même entre toi et moi. Donc, on a été avant-gardiste avec une voiture électrique, mais on a tout ablété ça comme un vieux fonctionnaire dans une usine de GM.
Mais c'est justement ce que ton documentaire, là, Who Killed the Electric Car, qui a tué la voiture électrique, c'est un peu ça que ça avance, hein, théorie du complot, genre la voiture était super populaire, mais elle a été tuée sans qu'on sache trop pourquoi. Ça aurait été de la pression de la part d'industrie pétrolière, là, c'est ce que le documentaire.
Ben oui, parce que je pense qu'on avait encore l'intention de vendre énormément de pétrole là à la fin des années 90. Ben encore aujourd'hui, on veut en vendre. Donc
c'est ça qui est drôle. Hein? Quand on était petit, ils nous disaient qu'on allait en manquer, puis là, ils en trouvent à tous les jours du pétrole.
Ben oui. Donc il n'y avait pas encore de volonté de prendre le virage vert, donc on était simplement un peu trop tôt chez GM à ce moment-là.
Parlant de voitures en avant sur leur temps, moi, je vais conclure en parlant de la Porsche 959 ou 959.
Oh.
Ça, c'est la voiture, mon ami. Là, on sort des voitures pour monsieur, madame, tout le monde. On tombe plus dans la super voiture. D'ailleurs, une belle 959 aujourd'hui, là, ça vaut une fortune si vous en trouvez une. Ben, en 1986, quand Porsche a sorti cette voiture-là, c'était la rivale de la Ferrari F40. Hein? C'était la bataille de la fin des années 80. F40 contre Porsche 959, c'était soit qu'on était du bord de Porsche, soit qu'on était du bord de Ferrari. Et c'était deux approches très différentes parce que tu vois, la Porsche était à l'époque, quand elle est sortie, la voiture la plus rapide au monde parce qu'elle pouvait atteindre 317 km/h, ce qui est respectable comme vitesse quand même. Mais où c'est intéressant, c'est que Ferrari, si on se rappelle, F40 hein, était très classique, aucune assistance, roue motrice arrière seulement. Porsche arrive avec une super voiture, quatre roues motrices, et pas n'importe quel système, parce que c'est en fait...
Et la F40, si tu me permets, était beaucoup plus tape à l'œil en termes de silhouette, alors que la 959 avait plus une allure, justement, de 911 qui avait été poussée à l'extrême, là.
Mais c'est une voiture très techno, parce que tu vois, la 959, c'était la première voiture à avoir eu un système quatre roues motrices intelligent. Géré parce qu'on pouvait appeler un ordinateur à l'époque, là, en 86, ça devait pas être bien plus fort qu'une calculatrice aujourd'hui. Mais bon, on arrivait à répartir le couple entre les quatre roues, ce qui était...
On avait une énorme remorque derrière la voiture qui contenait l'ordinateur.
Je sais pas. Non, étonnamment, c'était assez bien intégré. Puis, tu sais, les calculs qu'elle devait faire, c'était simple, là. Tu sais, c'était des valeurs du genre, ben là, j'ai telle adhérence à telle roue, j'envoie tant de couples. Mais bon, pour l'époque, c'était assez impressionnant ce qu'on arrivait à faire avec ce système-là. Donc, sur la piste, c'est un système qui faisait un bon travail et on arrivait à avoir une voiture qui était moins racée qu'une F40, mais aussi performante sur circuit grâce à la technologie. Et c'est justement ce genre de voiture très technologique-là qui vont faire des compagnies allemandes, un peu les fabricants qui sont devenus aujourd'hui, là, avec des voitures très technologiques, même souvent trop technologiques.
Est-ce que c'est ce qui conclut notre podcast?
Ben, je pense qu'on a fait le tour des voitures avant-gardistes. C'est sûr qu'on aurait pu en nommer plusieurs, comme la Nissan Micra, qui vise à offrir une formule compacte et pas dispendieuse. Encore la Mitsubishi Mirage, qui vise à offrir une voiture en bas de 10 000 $. Mais bon, on fait des blagues, mais des voitures, il va toujours en avoir qui ont marqué l'industrie automobile. Je pense qu'aujourd'hui, les 6 voitures qu'on a présentées représentent en elles-mêmes, justement, des innovations qui sont non négligeables.
Et que si elles avaient été présentées un petit peu plus tard dans l'histoire, ben elles auraient peut-être connu un plus grand succès.
C'est quoi l'expression de génie? Notre génie est souvent reconnu après notre mort, hein?
Voilà. Alors, peut-être un jour, si tu meurs, ce sera.
Ah, ils vont écouter nos podcasts en disant c'était du génie.
Mon Dieu que c'était bon ces histoires-là, hein? C'était Marc-André Gauthier dans sa Bolt et moi-même, Germain Goyer, dans ma Oldsmobile à l'animation.
C'était Philippe Séguin, quelque part à Montréal, au montage, à la réalisation et à la musique.
C'était une production Cube Radio.